Pop Mind, les droits humains, une zone à défendre du 19 au 21 mars au 106 à Rouen. Un rendez-vous d'envergure européenne organisé par l'UFISC, collectif d'acteurs de la culture, sur des thématiques telles que les droits culturels, militance et résistance, territoire, relations au travail ou liberté individuelle et collective. Les radios normandes de découverte musicale, HDR, West Track, Radio Principe Actif, Radio 666, Radio Campus Rouen, Radio Nomax, Radio Phoenix et Radio Pulse, en partenariat avec la Ferraroc et Radio Campus France, s'emparent de l'événement pour faire entendre la voix des différents intervenants sur les sujets abordés lors de ces trois jours de rencontres et de débats. Pop Mind. Et salut, nous sommes en direct effectivement de la salle de concert Le 106 à Rouen pour ces quatrièmes rendez-vous Pop Mind, les droits humains, une zone à défendre. C'est la thématique générale de ces trois jours de rencontres, de débats, d'ateliers. On va essayer durant une heure de vous faire entendre la teneur des discussions, la teneur des points de vue sur ces thématiques qui questionnent la place de la culture et de ses acteurs dans la défense de ces droits humains. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est donc que ces droits ont besoin d'être défendus. Pourquoi? Comment? C'est ce que nous allons tenter de vous rapporter. Vous nous écoutez donc soit en direct, soit en différé sur les radios normandes qui s'intéressent à ces questions et qui font partie intégrante des réponses, sans doute des solutions. Je vais les rappeler, ces radios Normande HDR, Radio Campus Rouen, la radio du 106 à Rouen, West Track au Havre, Principe Actif à Évreux, 666 et Phoenix à Caen et Radio Pulse à Alençon, mais également sur les radios de la Ferraroc et de Radio Campus France. Pas facile en une heure de synthétiser des heures de rencontre. Chaque radio présente ici sur Potmagne, c'est donc emparé d'une thématique avec un invité et un challenge, celui de résumer en 10 minutes les points importants de ces moments de réflexion, histoire de vous donner envie de retrouver les podcasts des interviews faites en sortie de salle par les radios, ou même pourquoi pas d'écouter dans son intégralité les conférences, les débats, les tables rondes, palabres et ateliers de ce Pop Mind numéro 4, une sorte de speed dating de la défense des droits humains et de la rencontre de cerveaux qui pensent les démarches, les projets, les responsabilités pour que le monde de demain reste respirable. Et on commence avec Principe Actif, avec Radio Campus Rouen. Pop Mind, les droits humains, une zone à défendre, du 19 au 21 mars au 106 à Rouen. Radio Campus Rouen et Principe Actif qui se sont chargés du premier rendez-vous Pop Mind. Nous sommes avec JC Constantino Suarez de Principe Actif qui invite ce soir Stéphanie Thomas, présidente de l'UFISC. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Manu, je voulais juste repréciser parce qu'en fait Principe Actif c'est aussi le sud du département de l'Eure. Ah, et oui. C'est pas parce que nous sommes sur une nouvelle zone rurale que nous sommes en pleine conquête qu'il faut les oublier.
D'autant plus qu'on va aborder la thématique des territoires ruraux ici même à Pop Mind. Stéphanie Thomas, bonsoir.
Bonsoir.
On aborde avec vous la plénière qui a lancé les débats aujourd'hui avec ce titre qui reprend la thématique globale de Pop Mind, les droits humains fondamentaux, une zone à défendre, j'y sais.
Alors justement, il va être impossible de vous dire tout ce qui s'est dit durant cette plénière, mais moi je voulais revenir déjà sur la toute première question. Nous sommes sur la première journée de ces trois jours de Pop Mind où de nombreux acteurs du champ culturel participent aux différents ateliers et échanges. Mais très concrètement, pardon, Stéphanie Thomas, qu'est-ce que Pop Mind et puis quelles sont ses ambitions?
Alors, Pop Mind, c'est un événement qui préexiste avant celui-là, sauf c'est la quatrième édition de Pop Mind. Il a été porté dans ses trois premières éditions par la FEDELIMA, la Fédération des lieux de musiques actuelles. C'est un événement qui est d'envergure européenne où l'objectif c'est vraiment de se poser des questions un peu larges sur l'environnement des acteurs culturels, l'environnement qu'on a, enfin ce qu'on a autour de nous, et puis comment on est responsable, comment on agit sur cet environnement-là. Sauf que au bout de trois éditions, on s'est rendu compte que très clairement ça dépassait complètement les questionnements qu'on se posait, hein, le champ des musiques actuelles, ça dépassait aussi complètement le champ de la culture, et à un moment donné on s'est dit finalement c'est plus si légitime que ce soit la FEDELIMA qui porte cet événement-là, mais bien une union plus large, en l'occurrence l'UFISC, à qui on a proposé de reprendre en fait Pop Mind et de le transformer pour en faire un événement qui soit encore plus large, avec cette idée de travailler évidemment en partie sur le champ culturel, mais aussi de s'entourer d'autres réseaux issus d'autres mondes, les mondes de l'économie sociale et solidaire, le social, les solidarités internationales, l'économie, enfin voilà, de vraiment d'essayer d'aller dans une transversalité d'une appréhension du monde pour mieux comprendre en fait notre place à nous et comment on peut agir, notamment sur cette question des droits humains fondamentaux, parce que pour le coup, les droits humains fondamentaux, ça fait partie des valeurs du cœur en fait de ce qu'on travaille avec l'UFISC, et on sait que ça fait aussi partie du cœur et des valeurs très 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 fortes de ce que travaillent les autres réseaux avec qui on avait souhaité organiser cette édition de PubMind.
Justement, la première plénière était autour des droits humains fondamentaux, une zone à défendre. Sur cette conférence, c'est porté quand même régulièrement cette question de démocratie, même de démocratie étendue. Quel est le lien entre la culture et cette question de démocratie et de démocratie étendue?
Alors peut-être juste pour resituer un petit peu aussi qui nous sommes, en fait, je pense qu'il y a une chose qui réunit un peu tout le monde, c'est qu'on représente, nous sommes des acteurs issus d'un espèce d'interstice qui n'est ni entièrement public ni entièrement privé, et qui fait qu'un certain nombre d'entre nous, vous y compris d'ailleurs, sont issus des initiatives citoyennes, viennent directement des territoires, sont des associations ou des personnes qui portent des projets de façon forte et qui les partagent ensuite sur un territoire donné. Et si je dis ça, c'est parce que du coup, la question de la démocratie, elle se pose dans l'organisation même, en fait, de cet événement, à savoir qu'on est sur un événement collaboratif et coopératif, et que finalement, la coopération, donc le travail entre différentes structures, différents niveaux, alors quand je dis différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des fédérations nationales, des réseaux territoriaux, mais aussi des acteurs isolés, mais aussi des chercheurs, des philosophes, etc. C'est aussi ce qu'on essaye de représenter dans PubMind et de mettre en place, c'est-à-dire essayer d'opérer une démocratie qui soit transversale et qui permette à tout le monde de s'exprimer sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une parole plus forte qu'une autre. Bon, évidemment, on a des gens qui, comme Luc Carton, comme Florent Janicatrice, qui sont intervenus tout à l'heure sur la plénière introductive, qui détiennent des savoirs qu'on n'a pas et qui les partagent avec nous. Mais la question est vraiment de débattre, de chercher ensemble et pas d'arriver avec des solutions toutes faites. On est dans la coopération jusque dans les débats qui sont menés à PubMind, même si parfois le caractère assez frontal pour l'instant des débats fait que c'est plus difficile pour tout le monde de participer. On va essayer de briser ça au fur et à mesure des 3 journées.
Vous évoquiez justement Luc Carton, qui est philosophe et qui a travaillé sur cette question de la culture, ainsi que Florence Janicatrice, qui est économiste et professeure à l'Université de Lille. Ces regards sont des regards qui sont légèrement différents de ceux peut-être qu'on a l'habitude sur la culture, ou en tout cas qui sont hors de nos pratiques habituelles.
Bah, de fait, déjà, ils sont sur des pensées qui ne sont pas forcément culturelles. Luc Carton ne travaille pas que sur la culture, Florent Janicatrice non plus. Elle a son secteur particulier qui est celui de l'économie. Par contre, elle développe une pensée particulière dans ce domaine de l'économie qui forcément nous intéresse parce qu'elle pose à la fois des questions et en plus, elle propose aussi des alternatives. La même chose pour Luc Carton qui effectivement est philosophe, comme d'ailleurs Christian Ruby qui intervenait sur la table ronde des droits culturels juste après. Et le regard philosophique porté sur le monde culturel, il est aussi intéressant parce que ça nous oblige finalement à ouvrir un petit peu le champ de nos possibles et puis à regarder ailleurs que juste autour de nous ou entre nos potes, parce qu'on a quand même un peu l'habitude de, je parlais de coopération tout à l'heure, le plus naturel c'est de coopérer avec des gens qui nous ressemblent, donc les radios vont aller chercher les radios, ce qui est très bien, hein, mais les réseaux vont aller chercher les réseaux, et à un moment donné on risque de s'enfermer aussi comme ça dans une espèce de pensée qui est hyper hyper cloisonnée. Donc l'idée, je pense, qui est développée par PubMind et du coup de faire venir des gens qui sont un peu extérieurs, c'est de justement ouvrir les chakras et puis essayer d'être en transversalité le maximum.
C'est intégrer la culture dans le milieu, dans le monde économique, social, de la liberté, politique, ouais, citoyenne. C'est en faire un ensemble dont la culture ferait partie et pas avoir une espèce d'îlot qui serait la culture.
Bah, c'est un peu ça, ouais. Puis c'est le principe aussi des droits culturels, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une pensée de dire il y a la bonne culture et c'est celle-là qu'on va vous apporter ou qu'on va apporter aux personnes sur les territoires. Mais bien au contraire, chacun en soi est porteur de sa propre culture, ou d'une culture en tout cas, et c'est celle-là qu'il est intéressant de partager, de confronter, de mettre en échange et en dialogue.
On a abordé, et régulièrement ce mot est revenu, cette notion de droit culturel, mais qu'est-ce qu'un droit culturel? Comment on pourrait le définir, ce droit culturel?
C'est un droit humain fondamental. Alors, j'ai pas les mots exacts et j'ai pas sous les yeux la définition.
On va revenir tout à l'heure sur la question.
Je vous laisserai le soin de l'inclure dans le... Voilà, mais c'est d'abord chez la reconnaissance de la dignité des personnes et puis du fait que, voilà, intrinsèquement, chacun est porteur de sa culture et que cette culture a le droit d'être partagée dans la société aujourd'hui, dans les territoires, et que voilà, c'est...
On a rappelé que c'est finalement les valeurs aussi de l'éducation populaire. C'était abordé sur cette première plénière qui est de travailler avec, pour les publics, avec et pour, enfin, dans un espèce d'ensemble.
Alors avec surtout, ouais, plus que, enfin pour aussi évidemment, mais surtout avec. Alors, je maîtrise moins la notion d'éducation populaire. Cela dit, effectivement, enfin on parlait tout à l'heure de démocratie, d'émancipation des personnes, de dignité des personnes. Effectivement, je pense que le travail aujourd'hui, en tout cas tel que nous on l'envisage, c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire comment on fait pour qu'à un moment donné, sur un territoire donné, il n'y ait pas des personnes qui se sentent exclues, qui aient l'impression qu'on ne peut pas, qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, qu'elles ne peuvent pas partager, etc. Donc c'est aussi une remise en question finalement, alors là je me resitue en tant qu'acteur culturel, mais de notre rôle aussi dans nos territoires, c'est-à-dire quelle responsabilité on a pour que l'ensemble des personnes sur les territoires qu'on occupe se sentent en fait bien et puis puissent faire humanité ensemble, puisque c'est un peu le but aussi des droits culturels.
L'occasion PopMind justement de se re-questionner, peut-être prendre un pas de recul afin peut-être d'y re-réfléchir, j'imagine.
Ah bah c'est fait pour ça, ouais, clairement.
Et donc l'objectif c'est aussi de faire de PopMind un rendez-vous régulier qui revient, qui intègre de plus en plus de monde. C'est quoi finalement l'objectif de PopMind aujourd'hui, au-delà de malaxer des idées, d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit et d'essayer de comprendre comment on protège les droits fondamentaux humains?
Il y a plusieurs objectifs. Il y a un premier objectif qui est celui d'essayer d'identifier justement ce qui fait alternative, donc sur quoi on peut s'appuyer, qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui nous permettent justement de travailler au mieux ces droits humains fondamentaux. Est-ce que ce sont des initiatives reproductibles, isolées, comment est-ce qu'on les transmet, est-ce qu'on peut coopérer dessus, enfin voilà, c'est toutes ces questions-là. Le deuxième objectif, c'est, alors sur cette année-là particulièrement, on est quand même à l'échéance d'une élection européenne et puis d'une élection municipale dans pas si longtemps que ça, et c'est à un moment donné aussi, je pense, à travers ces trois journées de débat sur des thématiques bien particulières, de pouvoir affirmer une parole portée par une certaine typologie d'acteurs, en tout cas de la culture, sur la place des cultures des personnes dans les politiques culturelles et d'ailleurs dans les politiques générales, hein, je pense au niveau européen et puis au niveau français aussi, puisque les municipales arrivant bientôt, peut-être que ce qui va sortir de ces trois jours de PopMind pourra nous servir d'étalon quelque part pour aller s'adresser aux futurs municipables, je sais pas comment on dit,
aux futurs maires,
aux futurs maires, voilà. Et puis la troisième chose, c'était ta question de est-ce qu'on va continuer en fait PopMind.
Oui, et puis est-ce que c'est amené à s'ouvrir aussi peut-être encore plus que ça ne l'est aujourd'hui, même si c'est très très ouvert déjà.
Alors bah oui, on est au premier jour aujourd'hui, donc je sais pas comment on va ressortir des trois jours et peut-être qu'on dira non plus jamais, mais je ne pense pas, je pense que c'est plutôt bien parti pour qu'on se dise oui, il faut qu'on continue à travailler cette initiative et surtout qu'on l'élargisse encore plus, c'est-à-dire en faisant encore plus participer de réseaux extérieurs, pas forcément culture, en faisant participer encore plus d'acteurs. L'intérêt aussi, je suis un peu brouillon, hein, vous m'excusez, c'est la fin de journée,
non,
mais
c'est très clair.
L'intérêt aussi c'est que comme on travaille, donc c'est le 106 qui nous accueille, le 106 qui est à Rouen, qui est lui-même dans un département, qui est lui-même dans une région, etc. Et pour le coup, on est aussi proche de la dimension territoriale que de la dimension européenne, et de pouvoir mixer ces différentes dimensions, ces différents espaces, c'est aussi une transversalité qu'on recherche à travers PopMind. Donc un ancrage territorial, un ancrage national par un portage par une union qui du coup est nationale, et puis un ancrage européen dans les thématiques qu'on aborde et les invités qu'on reçoit.
Finalement ça marche bien avec cette émission puisqu'on a les acteurs locaux ici qui s'activent et on est diffusé à un niveau national, notamment par le biais des réseaux nationaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphanie Thomas,
merci,
présidente de l'UFISC, de JC, de Principe Actif, la radio heuroise, cette fois je dis heuroise comme ça je me trompe pas.
C'est parfait.
C'est bon territoire.
Et
voici donc poser la thématique de ce rendez-vous organisé par l'UFISC. Avant de retrouver Radio Phoenix de Caen, je vous propose de découvrir des artistes normands dans cette émission. On en profite pour supporter notre local scène. Voici des Rouennais qui vont porter les couleurs de la Normandie à Bourges cette année. Ils seront également sur la scène du festival Beauregard à Caen du 4 au 7 juillet prochain. Le nom de ce groupe, We Hate You Please Die.
I'm not afraid to die.
Wait You Please Die, Melancholic Rain, un court extrait des Rouennais. Wait You Please Die, bon non, finalement on a passé tout le morceau. À retrouver dans les sélections du Printemps de Bourges du 16 au 21 avril prochain et dans la programmation du Festival de Beauregard cet été.
Pop Mind. Les droits humains, une zone à défendre, du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.
Et nous sommes toujours en direct du 106, la salle de concert à Rouen, dans le cadre de ce rendez-vous Pop Mind organisé par l'UFISC, collectif qui regroupe de nombreux acteurs de la culture et qui s'interroge avec ce rendez-vous sur la place de la culture, des acteurs de la culture en France et au niveau européen dans la défense des droits humains fondamentaux. Et un de ces droits fondamentaux inscrits depuis peu dans la loi française, c'est le droit culturel. Adrien de Radio Phoenix est avec nous. Bonsoir Adrien.
Bonsoir à tous.
C'est à Caen, Radio Phoenix. Vous avez suivi un débat intitulé justement « Comment mettre en travail les droits culturels » et vous nous avez ramené deux invités, Christian Ruby, le philosophe, docteur en philosophie, et Anne-Christine Micheux, chargée de mission sur les droits culturels au ministère de la Culture. Bonsoir à tous les deux, je vous en prie, prenez
les micros. Bonsoir.
Alors, on est un petit peu dur avec eux parce qu'ils sortent tout juste de la conférence qui était très intéressante, mais qui a un petit peu traîné sur la longueur, je crois, comme beaucoup de conférences ce soir. Mais ce droit culturel était mis en question et vous aviez tous les deux une approche un petit peu particulière et j'ai même envie de dire une remise en question un peu de ce qui s'est fait ces dernières années et de l'approche du droit culturel qui s'est établi depuis 1948 dans les textes fondamentaux, mais qui aujourd'hui pour vous, si j'ai bien compris, est... Voilà, il y a une vision à prendre un peu différente, ce que vous avez notamment défendu, Anne-Christine Micheux, de regarder ça un petit peu différemment. Et le mot d'identité est beaucoup revenu dans votre discours.
Alors, ce que je disais, c'est qu'effectivement, les droits culturels, dans la loi française, ont été inscrits dans le champ de l'art et de la culture, alors qu'ils sont devenus... au fil de l'histoire, des leviers pour tous les droits humains et donc qui concernent l'ensemble des domaines de la vie des hommes. Après, effectivement, on se posait la question de comment les droits culturels étaient mis en œuvre par les uns et par les autres, et j'ai essayé de voir quels étaient les points qui faisaient mal, en gros, et qui faisaient qu'en France, c'était compliqué de se prendre en compte les droits culturels, et effectivement, le point le plus important pour moi, c'est la question d'identité et de diversité culturelle, parce que on a toujours peur du communautarisme, on a toujours peur du repli identitaire, alors que l'identité, c'est vraiment une clé. Reconnaître l'autre et être reconnu dans son identité, c'est vraiment une clé pour la dignité humaine et les droits culturels et les droits de l'homme.
Christian Ruby, vous avez peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Ça concordait en partie avec votre discours aussi.
Avec une nuance qui est d'abord celle de mon parti pris, de mon entrée dans le domaine. Bien évidemment, ensuite, une partie des propos qui ont été tenus étaient intéressants. En revanche, je pense qu'il faut... Il faut qu'on s'arrête un tout petit peu sur l'usage que l'on fait des mots, sur le brassage des notions, sur la manière dont finalement on veut leur faire dresser un portrait de la société et en même temps essayer de donner des solutions à un certain nombre de problèmes. Et moi, je ne suis intervenu que sur ce point-là, c'est-à-dire... comment nous utilisons ces termes, qu'est-ce que nous en faisons, quels sont les échecs induits par la manière de les utiliser, etc. Ça n'est pas du tout une critique des droits culturels. C'est pas, d'ailleurs pas mon domaine. J'ai juste fait remarquer que la problématique des droits était quand même pas tout à fait récente, mais ensuite, bon, chacun a évoqué les dates en question. Mon problème, c'est comment, par exemple, on articule droit culturel avec le débat sur universel et divers. En l'occurrence, pourquoi est-ce que c'est une question qui m'arrête, pourquoi c'est une question qui est difficile pour moi, c'est que philosophiquement parlant, je n'arrive pas à rentrer dans ces couplages. Là. C'est-à-dire que philosophiquement parlant, à l'universel, on oppose le singulier, mais sûrement pas le différent. Le différent n'est pas en soi un opposé quelconque de l'universel. Mais ça c'est mon entrée philosophique dans l'affaire, et je crois utile, même si c'est un peu compliqué, dans les débats, de le faire remarquer, en tout cas, de poser... une sorte de coin en disant attention à ce que vous dites, attention à aux conséquences, aux risques que vous prenez en le disant.
On a vu aussi un exemple très intéressant portugais sur un endroit qui est à la fois un hôtel, une résidence d'artistes, où ils expliquaient que les gens qui venaient y loger participaient à loger des artistes. Il y avait toute une implication avec le quartier. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant en termes géographiques d'avoir comme ça l'implication du quartier, de tous les gens qui vivent dans ce quartier, qu'ils soient résidents ou non, puisque les gens aussi qui étaient mis, entre guillemets, de côté étaient aussi intégrés dans les projets. Est-ce que vous connaissiez ce projet-là et quelle réaction vous avez eue par rapport à cet exemple qui... Moi, je pense en France, ça a très peu de résonance, où on peut trouver très peu de choses semblables.
Alors, moi, je dirais, excuse-moi, pour lancer quelques réponses à votre question, premièrement, que la table ronde en question était bien organisée, puisque ça permettait de passer de réflexions plus théoriques à des exemples pratiques, vivants, qui ont des conséquences sociales, qui ont des conséquences sur le terrain, que ce soit au Portugal, finalement, ou comme ma collègue du ministère l'a rappelé, en France. Je crois que ça, c'est un problème d'équilibrage absolument essentiel pour comprendre que cette question des droits culturels, c'est pas juste une question d'enceinte universitaire et de discours à partager ou de critiques à s'adresser les uns aux autres, mais c'est vraiment un problème central. Bon, après, moi, je serais plus nuancé que ce que vous avez dit à propos d'expériences existantes. Je crois qu'en France, il y en a, mais on va pas se battre non plus les pays les uns par rapport aux autres. Ça aurait pas beaucoup de sens. Mais moi, je sais que j'en connais beaucoup en France. Et justement, ça me donne l'occasion d'une remarque. Je pense que l'un de mes soucis, c'est cet aveuglement permanent que l'on a sur notre propre terrain et sur notre propre capacité à faire émerger ou à mettre en articulation des projets qui ne sont pas visibles immédiatement, que personne ne suit, etc. Et qu'il faut absolument faire émerger parce que c'est là qu'est le terreau à partir duquel quelque chose pourrait se constituer de plus large.
On a compris juste peut-être que c'est sur la définition aussi des droits culturels qu'il y avait un souci. Comment est-ce que elles s'opposent vos deux visions des droits culturels? On peut aborder ça ou est-ce qu'elles s'opposent véritablement? Qu'est-ce que c'est que les droits culturels finalement?
Mais pas du tout.
De quoi on parle?
Elles ne s'opposent pas. Alors, excuse-moi parce que ça va être une fois que je te prends
la parole. Moi j'étais pas là. J'étais pas là. Donc je voilà.
Elles ne s'opposent pas. Juste ce qu'il faut garder en tête quand on analyse des problèmes de culture ou quand on analyse cette question des droits culturels en l'occurrence, pas forcément les droits universels, c'est un autre problème. Ce qu'il faut observer, c'est qu'il y a plusieurs approches possibles du mot culture et que au lieu de croire qu'une seule définition peut valoir pour tous parce que le dictionnaire vous dit ceci ou cela, etc., il faut comprendre. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les droits culturels sont très fondamentalement calqué sur une définition de type anthropologique de la culture. Donc, droit culturel implique la religion, les arts, la culture, la cuisine, etc., etc., ce qui n'est absolument pas un problème, ce qui correspond très rigoureusement à la définition de Boas de la culture en 1890, je crois, qui est reprise, retravaillée et diffusée. Mais on peut très très bien essayer d'inclure à l'intérieur de cette définition très large des choses plus problématiques, plus restreinte, plus restrictive peut-être, le domaine des arts et de la culture, des œuvres elles-mêmes, etc. Voilà, ce sont des niveaux de discussion qui ne s'opposent pas mais qui pourraient s'intégrer les uns aux autres.
Anne-Christine Michaud, sur cette question.
Oui, en fait, on n'est pas, il n'y a pas une question d'opposition. Les droits culturels, c'est des choses qui se débattent parce qu'effectivement, ça fait changer complètement le prisme des politiques culturelles en France qui ont été construites, en gros, de manière descendante. On amène au bon peuple les grandes œuvres de l'humanité et là, maintenant, on s'intéresse à la culture de tout le monde. On s'intéresse au fait qu'il puisse développer ses capacités culturelles tout au long de sa vie. Et on n'est pas uniquement dans cette... On est aussi dans la logique de pratique, on n'est pas uniquement dans cette logique d'accès à des œuvres, fussent-elles aussi importantes. Et ça change la perspective pour tous les acteurs culturels.
Finalement, on en arrive à l'étape peut-être la plus difficile, c'est d'avoir les gens qui s'emparent de la culture, mais pas d'aller l'apprendre, mais de la faire par eux-mêmes et d'avoir cette reconnaissance de ce qu'ils vont produire. Ça, c'est quelque chose de difficile. Alors, on met les mots, mais c'est vrai que dans les actes, après, c'est une autre histoire. Est-ce que vous le ressentez comme ça?
Enfin,
d'avoir ce partage entre les personnes et que chacun arrive aussi à reconnaître ce que chacun va produire. Ce qui est quelque chose de plus difficile que d'emmener les gens dans des lieux.
C'est certain. La question est que on est tellement habitué à une hiérarchie de valeurs vis-à-vis des œuvres et tout ce qui a été référencé par l'institution culturelle qu'on a du mal à penser et à accepter que l'expression de la diversité des gens, on va dire, des personnes, soit effectivement quelque chose sur laquelle on peut aussi mettre le projecteur et qu'on peut entendre, qu'on peut observer tout à fait, quoi.
Une réaction peut-être à ça ?
Simplement pour rappeler que je crois qu'il existe vraiment un peu partout dans ce qu'on appelle les territoires des expériences qui concrétisent très de façon très intéressante tous les concepts qu'on essaie de brasser, c'est-à-dire des mises en relation, des mises en dialogue, des tentatives pour éviter les isolements, l'enfermement sur soi, sur le territoire, sur la ville, sur etc., les échanges, les interactions, la transversalité. Je pense que l'une des difficultés aujourd'hui, c'est justement qu'on n'en parle pas assez, qu'on n'en parle pas assez en essayant de les mettre en relation et que par conséquent, on ne les fait pas émerger là où ça devrait émerger. Je sais qu'ici, par exemple, les studios ont aussi une mission de mettre en contact les uns avec les autres. C'est absolument fondamental. On peut toujours faire de la musique dans son coin et se croire génial. Bon, la question, justement, c'est quand on est confronté à quelqu'un d'autre qui vous dit « Mais regarde, t'es incapable de faire, je sais pas quoi, un contre-U, tu fais, je connais rien à la musique, je vais te montrer. » Et à ce moment-là, il se passe quelque chose. C'est tout à fait jouable. Je pense que ça se développe.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été ici, d'avoir rapporté ces mots qui ont été échangés déjà autour des droits culturels. Pump Mine à Rouen, 19, 20, 21 mars 2019 au 106, la salle de concert. Première journée de débat, de conférences et d'ateliers en question durant 3 jours. Les droits humains fondamentaux, dont ceux d'avoir accès à la culture, de partager sa culture, de créoliser les cultures si on le souhaite, de créer tout simplement. On poursuit notre scan de cette première journée de Pump Mine avec la radio havraise Westrack et la question de la concentration.
Pop Mind, les droits humains, une zone à défendre, du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.
Pop Mind, un rendez-vous pour se questionner, pour réfléchir au monde dans lequel nous vivons par le prisme de la culture, la vision des membres de l'UFISC, collectif qui regroupe 16 organisations régionales ou nationales, 2500 équipes et structures culturelles dans des domaines variés, le théâtre, la marionnette, les arts de la rue, la danse, les arts plastiques ou visuels, les musiques actuelles, la vision d'économistes, de philosophes, de penseuses et de penseurs de notre époque, une époque dans laquelle les phénomènes de concentration posent question. Mathieu, Westrack, la radio du Havre. Salut Mathieu.
Salut Manu.
Vous vous êtes penché sur ce sujet de la concentration économique et institutionnelle dans le spectacle avec cette question posée cet après-midi. Comment lutter contre ça ?
Tout à fait. Alors je suis accompagné de Léna qui fait Bonsoir. Aussi partie de l'équipe de Westrack Radio. On n'est pas venu avec nos intervenants parce qu'ils viennent juste de sortir d'une interview qu'on vient de leur faire justement sur ce sujet.
On retrouvera sur les podcasts des différentes radios.
Exactement. Et il est vrai que la question de la concentration, c'était posé en tant que telle sur justement la concentration à laquelle on est en train d'assister dans le milieu de la musique, à savoir l'arrivée sur le territoire français de grosses multinationales. On a cité des noms comme Live Nation ou AEG ou même plus nationalement comme Fimalac, qui sont en train de grappiller du terrain sur l'activité même des salles de musique actuelles, des promoteurs locaux qui étaient avant ça gérés de façon peut-être un peu plus militante. Enfin, il y a eu, voilà, je te fais un petit résumé comme ça.
Ouais.
Mais quelque chose qui questionne, parce qu'en fait ce problème de concentration a l'air de s'accélérer, c'est-à-dire que depuis ces 10 dernières années, on assiste de plus en plus à l'arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux très très gros acteurs, des rachats de festivals, des fusions de salles, il se passe plein de choses en France et y a deux choses qui sont un peu paradoxales, c'est que d'une part, on est revenu justement sur l'arrivée de Live Nation en France. L'arrivée de Live Nation en France, c'est le festival Main Square à Arras. C'est-à-dire que ce festival, qui était subventionné par la collectivité territoriale et locale, a été racheté, ou en tout cas Live Nation a mis des parts dedans. Live Nation, c'est une grosse multinationale de l'entertainment qui possède un nombre de salles très très important dans le monde. Mais il possède pas que des salles, il possède aussi des outils de billetterie. possède des médias, enfin
des artistes aussi.
Des artistes, voilà, aussi énormément d'artistes. Donc il est vraiment là ce phénomène de concentration, c'est que de nouveaux acteurs arrivent sur le terrain avec une vision à 360, c'est-à-dire qu'ils gèrent tout de l'artiste jusqu'à sa commercialisation, de la vente des disques, de la vente de billets, de la production de concerts, etc., etc. Quand c'est arrivé en France en 2000, je sais pas quoi, je vais dire une bêtise, donc je dis pas la date, mais en tout cas par l'intermédiaire de Main Square à Arras, on s'est souvenu en fait qu'il y avait eu une espèce de levée de bouclier des acteurs qui disaient attention, danger, grand méchant loup, qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, le constat est de se dire que 10 ans après, bah, Live Nation fait totalement partie du paysage des musiques actuelles en France, que la plupart des salles de concert françaises travaillent avec Live Nation, main dans la main, produisent des artistes. Et donc, en fait, il y a ce modèle, en fait, ce modèle de capitalisme d'après-guerre qui est très clair et net, qui est basé sur du gigantisme. Donc, devenir gros, avoir des parts de marché, avoir des monopoles ou des oligopoles, des termes qu'on était employé dans cette conférence. Et ce modèle est connu. Il n'avait pas trop impacté jusqu'alors le milieu des musiques actuelles, ou alors la frontière était très claire, c'est-à-dire que des années 60-70, il y avait vraiment les producteurs privés d'un côté, et puis le militantisme de l'autre côté, le punk, le rock, qui a commencé à trouver une identité, une existence, qui a commencé à se professionnaliser, se structurer, et qui, maintenant, on peut se féliciter d'avoir des lieux super chouette sur nos territoires comme ici au 106. Et en fait, jusqu'alors, ce modèle capitaliste, je vais finir mon monologue parce que je suis
resté
un peu long,
était un peu resté à la marge,
alors que ce modèle est clair, on sait,
il est en train de s'installer en France,
on sait où il commence, on sait où il va, ouais. Et on est en train de s'étonner que ça impacte notre milieu, et on sait où ça va, c'est-à-dire que effectivement le principe des monopoles et du gigantisme, c'est un principe même du capitalisme, et on est en train d'assister à ça dans notre milieu. On se dit, ah oui, mais alors comment lutter ?
Alors là, oui, c'est ça. Alors, et puis d'abord, est-ce que ça impacte seulement l'univers de la musique ? Puisque là, on parle essentiellement des musiques actuelles. Est-ce que vous avez abordé dans ce moment-là d'autres exemples de concentration comme ça économique ?
Au contraire, c'est un phénomène qui touche également le domaine de la santé, celui de l'agriculture. Il y avait d'ailleurs un représentant de
Terre de Liens. Vincent Janot, ouais, j'ai retenu Vincent son nom.
et d'ailleurs, Terre de Liens, ça fait 30 ans qu'il essaient de développer des solutions pour maintenir une agriculture paysanne, pour que les citoyens et les citoyennes se réapproprient les terres et que tout ne parte pas dans les industries agroalimentaires. Parmi les chiffres assez illustratifs qu'il a cité, il y a celui d'un terrain de football toutes les 10 secondes qui est bétonné en France. Donc voilà, c'est un phénomène qui est massif aussi dans le domaine de l'agriculture. Et voilà, il a suggéré que le secteur de la musique s'inspire de ce que fait Terre de Liens pour que
C'est-à-dire, donc parmi les solutions, c'est quoi ? Récupérer de l'argent et puis
Ça fait partie des solutions qui ont été abordées, alors pas directement dans la conférence, mais dans le podcast du coup qu'on mettra à disposition après cette émission. Mais effectivement, il y a des questions de peut-être d'une meilleure gestion et répartition des droits des artistes, ou en tout cas des revenus générés par le succès d'un artiste. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des artistes à l'heure actuelle, c'était la fin de l'intervention de Philippe Berthelot, qui nous expliquait, voilà, il y a des artistes à l'heure actuelle, quand ils font la culbute, en termes de masse financière, c'est phénoménal. Et que on est aussi dans un système où les structures dites publiques subventionnées sont aussi subventionnées pour faire de l'accompagnement de groupe. Et on assiste des fois aussi à un financement de l'accompagnement à fonds perdus, et des fois avec des artistes qui derrière font la culbute, génèrent beaucoup d'argent sans retour sur investissement sur la collectivité publique, ou en tout cas pour l'intérêt général des autres groupes qui sont derrière et qui auraient besoin de moyens pour se développer.
Donc on a compris qu'il fallait aller essayer de trouver de l'argent, et ça c'est peut-être jamais ce qu'il y a de plus simple. Et donc on va parler de gratuité tout à l'heure, peut-être il y a des solutions aussi à trouver dans cette direction-là, on va en parler tout à l'heure. Donc on a compris que la concentration, elle était en cours, la concentration économique
elle est presque inéluctable
dans les secteurs, en tout cas dans le secteur des musiques actuelles, sans doute dans d'autres secteurs également, mais on n'a pas parlé, et on va l'évoquer assez rapidement, de la concentration institutionnelle. De quoi il est question quand on parle de concentration institutionnelle ?
Eh ben, moi j'ai trouvé que c'est pas une question qui avait été énormément abordée au sein de la conférence. On est quand même resté beaucoup sur la concentration économique et la concentration institutionnelle. je sais pas exactement, voilà, enfin sur le thème de cette conférence, le mot a été posé dans l'intitulé et j'étais très curieux de savoir justement comment ils allaient questionner cette question de concentration institutionnelle, j'ai pas d'industriel, et ça a été pas du tout abordé. Je trouve que ça a pas été abordé. Après, effectivement, il y a
beaucoup de choses à dire sur la concentration économique.
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur la concentration économique. Il y a beaucoup de choses à dire sur la concentration institutionnelle aussi.
Bien sûr.
Le système dans lequel on va de plus en plus. Enfin, si ça a été un petit peu dit quand même. Je dis que ça a pas été abordé, mais si sur justement les équipements structurants et les gros événements. Et les collectivités territoriales ont tendance à abonder plus sur justement des gros équipements structurants, des gros événements, que sur une diversité d'acteurs en milieu ruraux.
Et là,
on aura
l'occasion d'en reparler demain, puisque c'est une des questions sur lesquelles on reviendra. Merci à tous les deux d'avoir rapporté un peu de ce qui s'était dit dans ce moment-là, ici à PopMind. Une heure pour résumer une journée de propos, tous très intéressants, c'est forcément un peu frustrant. Sauf que vous pourrez très bientôt retrouver sur les sites des radios normandes qui participent à PopMind, sur le site de la Ferroc ou sur celui de Radio Campus France, de nombreux podcasts qui vous permettront d'aller plus loin dans la réflexion. Merci à tous les deux. Westrack Radio, on rappelle
merci
que c'est
beaucoup.
Une
merci
radio qui existe au Havre sur Internet et bientôt en diffusion numérique.
Alors bientôt en FM d'abord en FM en juin et après en radio numérique terrestre.
On peut vous retrouver en tout cas sur le net quoi qu'il arrive. Et avant de parler de gratuité dans la culture, un autre groupe normand, puisque ce sont bien les radios normandes qui se mobilisent pour vous proposer ce programme, et comme toutes les radios, nous supportons nos artistes locaux et comme on aime partager, voici Mickaël Meukel qui viennent moitié de Caen, moitié d'Alençon, et ça tombe bien puisque juste après on se retrouve avec Oscar de Radio Pulse à Alençon. Mickaël Meukel, Volcano à l'instant. Mickaël Meukel, un groupe qui fait le grand écart entre Alençon et Caen. Ils étaient d'ailleurs il y a peu à Alençon dans le cadre d'un festival organisé par la radio Pulse, que l'on va justement retrouver tout de suite pour parler de gratuité dans la culture. Un des sujets abordés aujourd'hui dans ce rendez-vous PopMind sous-titré Les droits humains fondamentaux, une zone à défendre.
PopMind. Les droits humains, une zone à défendre. Du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.
En direct ou en différé sur les radios de la Ferraroc ou de Campus France, mais aussi des radios normandes réunies pour vous proposer un retour sur PopMind ici à Rouen au 106, la salle de concert où se déroulent les différents débats, ateliers, conférences sur les droits fondamentaux à défendre par le biais notamment de la culture et des acteurs de la culture en France et au niveau européen d'ailleurs. Et si la gratuité était une façon de mieux résister au capitalisme, vous avez assisté à cette conférence, Oscar, salut à vous.
Eh bien merci, salut. En effet, j'ai assisté donc à cette conférence, et si la culture était une manière de lutter contre le capitalisme.
Et vous nous avez amené un invité qui est Jean-Louis Sagot Duvauroux, philosophe et dramaturge, auteur de l'ouvrage que je conseille fortement, Pour la gratuité.
Et aussi donc directeur d'un théâtre également, donc grand connaisseur de la vie culturelle et de ses rouages.
Et grand voyageur également.
Grand voyageur, oui, voilà, parce que vous avez donc une compagnie de théâtre franco-malienne aussi.
Oui, qui est à Bamako, oui. mais qui vient souvent en France.
Et donc pour première question, à propos donc de ce débat donc de deux heures autour de la gratuité, est-ce que vous pouvez rapidement nous parler eh bien, de ce qu'est la gratuité justement selon vous et de ce qu'est la gratuité dans le monde de la culture ?
La gratuité, vous savez, quand on dit c'est sans prix, ça veut dire que ça coûte, c'est beaucoup plus important que ce qui a un prix. Et c'est l'axe de nos existences à tous, c'est-à-dire que y a beaucoup de choses qu'on peut faire en payant. Et puis en fait, quand c'est vraiment du fond du cœur, etc., c'est que ça n'a pas de prix. On dit c'est sans prix et ça veut dire que ça a beaucoup plus de valeur. Quelle valeur ça a quand on dit c'est sans prix ? On dit en fait, ça touche au sens de mon existence et ça, je ne peux pas l'évaluer monétairement. La culture, elle est une fabrique du sens de l'existence. Une des fabriques, elle n'est pas la seule, mais elle est une des fabriques et elle est la fabrique qui va donner forme aux symboles qui nous permettent de nous repérer dans notre monde. Si ceux qui ont le pouvoir sur cette fabrique nous fabriquent pour leur donner du temps de cerveau disponible et pour aller acheter pour eux, eh ben on assujettit l'humanité et on lui interdit de s'inventer elle-même. Donc la part de la gratuité dans la culture, c'est une hypothèse qu'il faut, je crois, toujours poser.
Donc vous êtes un grand défenseur de cette hypothèse donc de la gratuité dans la culture. La gratuité, c'est surtout aussi eh bien un moyen donc de combattre les lois du marché, car vous avez assez rapidement dans cette débat table ronde bien parlé du fait que la culture n'échappait pas au capitalisme, au domaine bien de l'argent. Que pouvez-vous justement me dire à propos de ce problème qu'il y a en fait entre la consommation de la culture et la consommation de tous les autres biens justement?
Le rapport marchand, il a des caractéristiques très fortes. Une des premières caractéristiques, c'est que quand on a payé, on veut en avoir pour son argent. Par exemple, quand vous allez au Louvre, vous payez 15 euros l'entrée au Louvre, vous dites, il faut quand même que j'en ai pour mon argent. Et c'est imparable, ça. Moi-même, qui suis pourtant vigilant sur ces questions, je me dis, et je vais m'épuiser dans cet immense vaisseau et me mettre dans une situation qui n'est pas du tout la bonne situation pour contempler. Si je suis à Londres, un musée de très haut niveau aussi, la National Gallery, est gratuite. Je vais rentrer, je vais me dire, tiens, j'ai 40 minutes, je vais aller voir les salles de la peinture hollandaise, et j'y vais tranquillement, je sors, deux jours plus tard, il y a un tableau sur lequel je continue à m'interroger, qui continue à habiter mon imagination, j'y retourne. Et là, on a produit, la gratuité a produit la bonne situation pour la contemplation. Et c'est un des éléments qui fait que le rapport marchand n'est pas bien adapté à la culture. Alors il y a des le marché n'est pas le diable, hein. Il y a un vieux dicton français qui dit que l'argent est bon esclave et mauvais maître. L'éditeur, vous avez eu l'amabilité de parler de mon livre pour la gratuité, il est édité par les éditions de l'Éclat, qui depuis 15 ans mettent gratuitement les textes à disposition sur Internet. C'est-à-dire qu'ils ont fait la différence entre l'objet industriel, marchandise de très bonne alloi, qu'est le livre, hein, qui coûte du travail, du papier, etc. Donc c'est tout à fait normal que ce soit une marchandise. Sa valeur n'est pas la valeur du texte. Hein. Un écrivain sans intérêt coûte aussi cher que Marguerite Duras pour le livre. Par contre, le livre, les idées qui sont transmises sont sans prix. On a un outil aujourd'hui, Internet, qui permet de le diffuser. Il le fait. Et chance pour lui, il vend davantage de livres depuis qu'il fait ça. Parce qu'en fait, le catalogue de sa maison d'édition, c'est une librairie où on peut aller feuilleter des livres, etc. Et puis, il y a toujours un jour où on dit, tiens, ma belle-sœur, elle va être passionnée par ça, je vais lui acheter, je vais lui donner pour son anniversaire. C'est pourquoi cette alliance entre le marchand et le non-marchand, qui préserve le sans-prix, l'aspect qui ne peut pas être évalué monétairement de la production du sens de nos existences, bah, c'est vraiment, ça s'épaule l'un l'autre.
Et cette notion de valeur, justement, on a fini par voir que la culture pouvait en fait en avoir une valeur, mais pas une valeur marchande. La gratuité va donner justement à la culture aussi une valeur bien plus grande. On a vu justement pendant ce débat que quand quelque chose est gratuit, eh bien on préfère en fait les choses qui n'ont justement pas de valeur pécuniaire en quelque sorte.
C'est devenu très contre-intuitif ça maintenant, parce que on dit toujours si c'est pas payé, les gens vont considérer que c'est sans valeur, hein. Non payé, donc sans valeur. En réalité, de multiples expériences montrent le contraire. Par exemple, toutes les villes qui sont maintenant nombreuses, qui ont mis la gratuité des transports publics, ont constaté une baisse très importante des incivilités et des dégradations. Parce que d'un seul coup, le bus devenait un espace public, il n'y avait plus la répression, il n'y avait plus le contrôle, etc. Donc c'était beaucoup plus humain, et il y avait beaucoup moins d'agressivité, et donc beaucoup moins de dégradation. Sur le plan culturel, il ne faut pas oublier qu'au départ de la fondation du théâtre en Europe, c'est chez les Grecs, non seulement le théâtre est gratuit, mais on paye les citoyens qui n'ont pas les moyens d'abandonner une journée de travail. Parce que c'est un endroit qui est considéré comme absolument décisif pour la vie de la cité. C'est là qu'on éprouve à l'intérieur de soi, en riant ensemble, en ayant la gorge nouée ensemble, en pleurant ensemble, en ayant peur ensemble, qu'on est les mêmes êtres humains. Et donc, on peut aller ensuite faire les lois qui nous gouvernent. Donc, tout ça sont des choses qu'on ne doit pas oublier. On est, il faut dire la vérité, on est plutôt dans une phase d'invasion des critères marchands et de l'imaginaire marchand. Si le monde culturel et le monde artistique peut être un des lieux de résistance à ça, voire un lieu de conquête de nouveaux espaces libres, libérés de la dictature de l'argent et des représentations marchandes, tant mieux, et on y travaille.
Bon, on espère que effectivement la gratuité va gagner du terrain, y compris dans les transports en commun, puisque d'après ce que vous dites, il semblerait tellement logique finalement d'avoir des transports en commun gratuits, puisqu'on a tout à y gagner finalement du point de vue environnemental pour se déplacer, et en plus on n'abîme pas les bus, donc c'est pas plus mal. Merci beaucoup Jean-Louis Sagot du Voreux d'être venu ici. Oscar, Radio Pulse, c'est à Alençon. Oui, c'est bien ça, hein, je me trompe pas.
Toujours Alençon. Ouais.
Toujours en direct, nous, de PopMind, édition numéro 4 de ces rencontres organisées par l'UFISC, espace d'expression citoyenne et de débat pour mieux construire collectivement. On s'inquiète de nos droits fondamentaux, mais on trouve des raisons de se réjouir aussi de certaines prises de conscience, de projets innovants et de manières différentes de fonctionner. On va accueillir Radio 666 avec Seb dans quelques instants. Radio 666 est à Caen. Et on va avoir notre dernier rendez-vous autour de PopMind.
PopMind, les droits humains, une zone à défendre. Du 19 au 21 mars au 106 à Rouen.
Dernier plateau pour revenir sur cette première journée de PopMind avec Seb de Radio 666. Radio 666, radio historique normande, j'ai envie de dire. Alors, à Hérouville-Saint-Clair plus précisément.
C'est ça.
Dans la banlieue de Caen. Vous avez participé à ce moment intitulé « Collecte de données, partage d'informations, production d'éléments de connaissances, comment les organisations d'acteurs de terrain, un long titre, les administrations publiques et les observatoires peuvent-ils mieux coopérer ensemble ?» En gros, finalement, on a parlé de travailler ensemble, de coopération.
C'est ça, ouais. Alors, ça a fait suite à un autre atelier qui avait eu lieu au Transmusical l'année dernière, où là, ils avaient plus parlé du résultat de ces coopérations, qu'est-ce qu'ils étaient capables de produire. Et là, en fait, ils sont revenus plus sur comment est-ce qu'ils coopéraient ensemble, quels impacts ça avait sur leur travail. Et qu'est-ce qu'il fallait faire pour essayer d'aller encore plus loin dans la coopération, et surtout avec une petite partie genèse. Alors on parle bien des administrations publiques, des acteurs de terrain et des observatoires. On n'était pas du tout sur des organismes à but lucratif, donc des gens qui feraient quelque chose de nos données pour récupérer de l'argent d'une manière ou d'une autre. Là, on était plus vraiment sur de la collecte pour avoir des indicateurs, être en mesure de sortir des statistiques et pouvoir en fait prendre des décisions dans le cadre de leur mission d'observation.
Ça veut dire que la coopération, ça commence d'abord par le partage d'informations, quoi.
C'est ça. Ouais. Et ça a commencé d'abord, donc il y avait 5 intervenants
Séverine Morin, qui était et qui est toujours responsable du centre de ressources du CNV, Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz. Marie-Pierre Baudier, chargée d'études à l'OCIM, qui est l'Office de coopération et d'information muséale, qui est un organisme rattaché au domaine scientifique. Bruno Lanier, coordinateur général et national du MES, Mouvement pour l'économie solidaire. Hyacinthe Châtaignier, coordinateur de l'observation et des études à la Fédélima, qui est un organisme qui va intervenir plusieurs fois dans les conférences de Spotmine avec plusieurs intervenants de cette structure.
Fédélima, qui est le réseau des musiques actuelles en France.
Exactement. Et pour finir, Audrey Guerre, ou Guéret, je ne sais même plus, je ne lui ai pas demandé comment on disait son nom, coordinatrice du Live DMA, qui est le réseau européen des salles de concerts et festivals. Donc, avec Séverine et Hyacinthe, qui ont travaillé dès le début ensemble sur cette collecte de données, le constat de départ était assez clair, c'était plusieurs structures avaient besoin de la même information et finalement ils se retrouvaient à aller demander au même acteur plusieurs fois la même information. Et donc du coup c'était comment faire pour moins solliciter l'acteur qui se retrouve avec deux formulaires à remplir et pourtant à donner la même information d'année en année, et ensuite être capable de mettre en relation un formulaire plus homogène, plus simple et plus réfléchi sur les besoins de cette statistique pour travailler en fait et trouver des autres manières de fonctionner. Avec Audrey, on avait une dimension un peu plus européenne puisque elle avait exactement la même problématique mais au niveau européen. Donc là on parlait de la sémantique, plus qu'est-ce que c'était que demander une information à un acteur, mais quand il est français, allemand, suédois ou portugais, les mots veulent pas dire la même chose, et donc il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on demande pour récupérer la même donnée.
Donc de pouvoir coopérer au niveau européen du coup.
Exactement. Et pour Marie-Pierre, c'était plus sur le domaine scientifique là, donc il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que tous les acteurs de la culture déploraient qu'il n'y ait pas une sorte de colloque régulier pour se retrouver tous ensemble et discuter justement des besoins de données et qu'est-ce qu'on pouvait en faire au sein des acteurs des administrations publiques et des observatoires de la culture. Et Marie-Pierre, elle disait, nous sur le domaine scientifique on a ce genre de rendez-vous, et c'est effectivement, ça permet de créer des convergences et d'aller vers des harmonisations et des banques de données qu'on peut interroger à loisir pour justement sortir l'information dont on a besoin. Là où c'était très intéressant, c'est que la plupart de ces acteurs ont exprimé justement une sorte de relation top-down, c'est-à-dire qu'il y a l'État qui dit nous voilà, on vous finance, effectivement on a besoin que vous collectiez des données, mais collectez-les, parce que si vous les collectez pas et que vous ne les fournissez pas pour des besoins qu'on ne vous dira pas parce qu'on n'a pas envie de collaborer avec vous, on vous donnera plus l'argent. Donc du coup la question c'était comment est-ce qu'on pouvait sortir de ça, et là il y a Bruno qui est arrivé avec une expérience qu'il mène depuis plus de 3 ans au sein donc du mouvement de l'économie solidaire, et il nous a présenté le Transiscope. Alors le Transiscope c'est quoi en fait? C'est un outil qui est mis à disposition des différents acteurs de l'économie solidaire. Ils sont formés, ces acteurs, à l'utilisation de cet outil. Ils choisissent la façon dont ils entrent leurs données, et au sein d'une charte et d'une coopération, donc d'une charte sur laquelle ils s'accordent au moment où ils entrent dans cette coopérative, le Transiscope est capable d'aller chercher la donnée sans avoir à la solliciter, et il l'intègre au sein d'un portail unique et il la met à la disposition de tous de manière libre et gratuite pour promouvoir ces économies-là et ces acteurs-là au sein d'une carte, au sein de différents indicateurs.
Donc là, on est dans le cadre d'une coopérative, de gens qui travaillent ensemble et qui adhèrent à cette coopérative-là, c'est ça ?
C'est ça.
Et qui donc ont un outil commun qui leur permet d'avoir des informations partagées, quoi.
Exactement.
Mais quel genre d'informations ?
Eh bien, ça peut être justement, il y a des informations économiques, bien évidemment, pour essayer, notamment au niveau de la culture et des salles des salles de pardon, je devais rechercher mon mot, des salles de musique. Voilà, ouais. Je voulais pas dire salles de musique actuelles parce que le CNV n'est pas à ce niveau-là. Il est au niveau des
salles de concert,
des salles de concert de jazz et de variété. Eh bien, c'est savoir quels. Enfin, il y a donc de la remontée économique pour savoir si les projets portent leurs fruits ou non. Alors on revient sur le quantitatif qui était exprimé en séance plénière, comme quoi c'était pas le seul point.
Oui, alors effectivement, peut-être qu'il faut rappeler que dans la plénière, effectivement, on a évoqué le fait, dans le version économique des choses qui a été traitée dans la plénière, que on avait tendance à demander beaucoup de volume et de chiffres et de statistiques généralement aux institutions culturelles notamment, mais pas seulement évidemment. On a évoqué d'autres espaces que l'espace culturel, et que il n'y avait pas que le chiffre, le nombre qui comptait, et que il y avait d'autres valeurs qui se cachaient derrière la statistique.
Tout à fait. Et Hyacinthe de la Fédélima a même mis un point d'honneur à rappeler que ces différents acteurs, dans leur collecte de données, ne faisaient pas de politique. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour récupérer de l'information pour pouvoir ensuite établir des rapports qui vont leur permettre de mieux répartir ensuite les différentes actions qu'ils mènent avec leurs différents groupes, et que essayer de savoir si quelque chose marche ou quelque chose ne marche pas, ça c'est du domaine de la politique, et ça les regardait pas. Eux, ils sont là sur un but purement observatoire, purement statistique, et justement l'idée c'est de coopérer au mieux, d'aller chercher l'information d'ailleurs qui existe mais qui n'est pas tout le temps mise à disposition par l'État, pour essayer de savoir comment mieux s'organiser ensemble. Et là où c'est très intéressant, c'est que l'initiative de Bruno avec le Transiscope est une initiative qui n'avait pas exprimé beaucoup de freins dans son élaboration, c'est-à-dire qu'elle semblait extrêmement vertueuse et fonctionnelle, et pour cause, parce qu'en fait ils ne sont pas allés chercher de financement public lorsqu'ils ont lancé cette initiative. Ils ont fait en sorte que l'outil qu'ils développaient n'ait pas d'appartenance propre, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'un organisme en particulier, du coup il n'est pas soumis à des volontés dirigeantes. C'est un projet collectif.
Et assez ouvert, quoi.
Voilà, assez ouvert, avec une charte bien définie dès le départ, ce qui fait que les acteurs qui veulent participer à ce projet savent tout de suite comment vont être utilisées leurs données, quelles sont les règles, et il faut s'y plier pour pouvoir y participer. Et enfin, voilà, c'était le principe d'adhérer à des valeurs communes, et c'est ça qui était assez intéressant à développer lors de cette conférence, c'est que on se rendait compte effectivement assez vite que dans la coopération, on pouvait parfois tomber très vite dans de la sous-traitance, c'est-à-dire oui je vous fournis mes données mais derrière vous allez me fournir un service. Là, avec l'initiative de Bruno et de son équipe, on n'avait pas ce système-là, et donc on avait quelque chose de parfaitement horizontal, parfaitement vertueux, et qui laissait donc bon espoir pour d'autres initiatives au-delà de celle des administrations publiques et des observatoires culturels.
Bon, c'est toujours un petit peu technique, hein, ces histoires d'information, d'analyse de données, de partage et de coopération autour des chiffres et de la mise en place de tout ça. En tout cas, on pourra retrouver forcément en podcast cette conférence si on a envie de s'intéresser à ces histoires de partage de données. Merci beaucoup Seb d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
666, la radio, donc du côté de Caen et des Hérouville Saint-Clair en particulier. On arrive à la fin de cette émission. Merci à toutes et tous. Défi relevé, donc une heure pour revenir sur des sujets pas toujours simples, des différents rendez-vous cette première journée de PopMind, un événement qui s'inscrit dans une perspective européenne de construction d'un espace commun justement et partagé pour les acteurs culturels. PopMind qui s'intéresse donc à tout un tas de questions sur lesquelles nous allons revenir dès demain, puisque il se poursuit ce rendez-vous organisé par l'UFISC, je vous le rappelle, et ses membres. Merci aux Radio Campus France, Ferraroc, merci aux Radio Normande, HDR, Radio Campus Rouen, la Radio du 106 à Rouen, Westrack au Havre, Principe Actif à Évreux et dans le sud de l'Eure, 666 du côté de Caen et Phoenix à Caen également, Radio Pulse c'est du côté d'Alençon. On se donne rendez-vous demain si vous le voulez pour la suite de nos aventures au cœur de ce Pop Mind à Rouen au 106, la salle de concert. Je vous dis à demain, excellente soirée à tous.